Alors, Matthieu chapitre 28, le titre de mon message, marcher dans sa poussière, j'étais sûre, il y a plein de questions là, tu es sûre? Ouais. J'ai pas dit marcher dans la poussière non plus, hein. J'ai dit marcher dans sa poussière et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Matthieu chapitre 28, verset 10 et puis ensuite 16 à 20. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, parce que oui, il faut à vrai dire que je donne aussi la version que j'utilise. Mais bon, nous allions y arriver. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ici, le Seigneur Jésus, donc, est ressuscité et il dit aux 11 disciples, et on sait que, bien sûr, il a dit aux 11, « Allez me rejoindre en Galilée », mais il va donner à tout ce qui arriverait après, jusqu'à la fin des jours. Il leur laisserait ce commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples, et il nous donne le processus. Quand le Seigneur a dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront, il faut savoir que ça n'était pas un ordre qui était inconnu, parce que le Seigneur, précédemment, leur avait déjà donné rendez-vous en Galilée avant sa mort. On sait par exemple dans Matthieu 26, je le cite simplement verset 32, il l'avait annoncé, il avait dit « Une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée ». Donc quand ils ont entendu cet ordre « Allez me voir en Galilée » ou « Allez me préparer un âne » ou « Allez faire ci » ou « Allez faire cela », il faut savoir que les disciples avaient déjà appris à obéir au Seigneur. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et la Bible nous dit au verset 11 que quand ils se sont rendus en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre, alors on pourrait se dire, mais quelle montagne? Bien, certains ont dit c'est peut-être le mont de la Transfiguration. D'autres ont dit non, c'est peut-être le mont qui est aujourd'hui appelé des Béatitudes. Et il est fort probable que c'est plutôt le mont qui est appelé des Béatitudes, qui est juste en face du lac de Kinneret. Et c'est là qu'il avait donné, vous savez, ce que l'on appelle justement les Béatitudes. Donc le Seigneur leur dit, allez me rejoindre là-bas. Et quand ils arrivent, c'est assez bizarre parce que la Bible nous dit, ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a une subtilité dans le texte originel qui n'apparaît pas ici. Il est dit quand ils le virent, mais dans le texte grec, il est dit quand ils le virent au-dessus, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu au-dessus de la foule. Et ils se sont posé des questions, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas? 1 Corinthiens chapitre 15, simplement je le lis, verset 6, dit « Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Mais il est apparu dans le sens, il est apparu au-dessus. Donc vous imaginez que les 11 disciples se rendent de Jérusalem, d'où ils ont eu l'ordre, jusqu'en Galilée, et il faut quand même plusieurs jours de marche. Ils arrivent, ils voient déjà 500 personnes qui sont là, sur les collines, et ils voient Jésus qui apparaît comme étant au-dessus. Et là, ils se mettent à douter. Est-ce que c'est lui ou pas? Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il est dit, Jésus s'approchant d'eux, leur adressa cette parole. Jésus ne les a pas corrigés pour les doutes qu'ils ont eus, mais il dit, tout pouvoir m'a été donné. » Et là, il leur lance un mandat qu'il est en train de lancer à la foule qui est devant lui. Et c'est un mandat qui est transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est un mandat qui ne s'est pas arrêté à la première génération de chrétiens. C'est un mandat qui est arrivé jusqu'à nous. Et au fur et à mesure où Jésus s'est approché d'eux, les doutes se sont levés. Est-ce que l'on a un aperçu de ce qui se passe quand on a des doutes ? Quand on a des doutes, ça n'est pas le moment de s'éloigner de Jésus. Quand on a des doutes, c'est le moment de se laisser approcher par le Seigneur. Et ici, remarquez que Jésus les a appelés. Alors, les 11 disciples ont souvent eu l'occasion de s'entretenir avec Jésus en particulier. Et c'est normal d'avoir une vie privée avec le Seigneur. Parce que nous, les chrétiens, nous ne nous sommes pas attachés à des dogmes, nous n'avons pas rallié un système de doctrine, nous n'avons pas adhéré uniquement à des principes bibliques. Nous, chrétiens, nous avons rencontré une personne. L'apôtre Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». L'apôtre Paul, qui était un théologien renommé, n'a pas simplement dit « je sais en quoi je crois, je sais en quoi j'ai cru ». Il ne nous a pas parlé d'un ensemble de doctrines seulement, même s'il était versé dans les Écritures. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul avait été instruit au pied d'un grand maître, d'un grand rabbin, Gamaliel. Mais il dit « je sais en qui j'ai cru ». Et parfois, nous venons à l'église et nous oublions que le Seigneur nous a invités à une réunion publique. Oui, nous avons notre vie avec le Seigneur et nous devrions la voir. Mais il y a ces moments où il y a des moments où dans un rassemblement, dans une assemblée, nous recevons un mandat. Un mandat qui nous vient de Jésus. Parce que quand nous nous assemblons, nous nous approchons d'une personne. Quand nous adorons, nous ne faisons pas que chanter, nous parlons à quelqu'un que nous savons être vivant. Quand nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous ne faisons pas que mettre de l'argent dans un panier parce que nous savons que ce que nous semons, nous le récolterons, ou parce que nous voulons que l'Église grandisse, que le royaume de Dieu s'étende, mais nous le faisons parce que nous sommes placés sous le regard de quelqu'un qui nous aime et en qui nous avons confiance. Ces réunions publiques-là, eh bien, nous oublions qu'elles importent au Seigneur. Dans le psaume 87, et on a besoin des deux, nous avons besoin d'une rencontre privé avec le Seigneur, et nous avons besoin de rencontres publiques, de rencontres où, dans un corps local, eh bien, nous cherchons à connaître le Seigneur, et les deux sont nécessaires. On ne peut pas substituer l'une à l'autre. Parfois, les gens me disent, « Oh, tu sais, moi, Dieu me parle quand je suis à la maison. » Bah, ouais, il n'y a rien d'étonnant. Il te parle quand tu es seul à la maison, il te parle quand tu es seul dans ta voiture, il te parle à ton travail, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se priver ou négliger les assemblées publiques. Le psaume 87, au verset 2, il est dit « Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. » Les portes. Que représentent les portes? Les portes représentent l'endroit où dans une ville, dans l'Antiquité, et même avant d'ailleurs, eh bien, les conseils étaient tenus, la justice était rendue. Et c'était quelque chose qui était fait publiquement. Et la Bible nous dit que le Seigneur aime ces rassemblements publics. Ensuite, on voit que le commandement est transgénérationnel. Il est clair, le Seigneur dit « Allez donc, Et de toutes les nations, faites des disciples. Il nous est dit comment? En les baptisant. On a la formule du baptême d'eau ici, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui veulent être disciples. Et ensuite, il leur dit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire en apprenant à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur à obéir à Jésus. Pas en apprenant seulement la doctrine, pas en apprenant seulement les principes de la foi chrétienne, mais en apprenant à obéir au Seigneur Jésus. Voyez-vous, parfois on aime tellement les principes, on aime tellement savoir, et nous sommes une génération qui est grandement bénie parce que la connaissance est au bout de nos doigts. La Bible nous dit que dans le livre de Daniel, qu'un des marqueurs de la génération qui va voir le retour de Jésus, c'est la connaissance qui va être à sa disposition. Aujourd'hui, on peut tout savoir sur tout. Aujourd'hui, tu peux apprendre de quelqu'un qui est en Inde sans se déplacer de chez toi. C'est énorme. Et parce que nous sommes des générations de la connaissance, nous oublions parfois que la vie chrétienne, elle a pour personnage central Jésus-Christ. J'aimerais vous parler de ce mot disciple. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, eh bien, c'est quelqu'un qui se convertit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va recevoir la vie éternelle, la vie qui est en Jésus-Christ, la vie qui est dans le Père. C'est quelqu'un qui va prendre conscience que tous ses péchés ont été effacés à la croix il y a 2000 ans. Et c'est quelqu'un qui va vivre avec cette vie nouvelle. Mais il est évident qu'il faut qu'il sache ce qu'est cette vie nouvelle en lui. Il faut qu'il comprenne les dimensions de cette nouvelle vie. Il faut qu'il sache qu'il connaisse son Seigneur. Il faut qu'il sache comment il pense. Et la Bible nous dit, il y a un seul moyen, c'est de devenir un disciple. Quelqu'un qui a accepté Jésus n'est pas un disciple, c'est quelqu'un qui est converti, mais en revanche, c'est quelqu'un qui a le choix de devenir disciple ou de ne pas devenir disciple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit, j'ai la vie éternelle en moi, je sais que mes péchés sont pardonnés, mais gloire à Dieu, ça me suffit, je sais que je franchis la porte du ciel. Une fois que je quitte cette terre, je sais que je vais passer l'éternité avec Dieu, mais en attendant, peu importe ce que le Seigneur pense, peu importe ce que le Seigneur veut, peu importe qui il est, je vais continuer à vivre comme j'ai toujours vécu. Ce qui fait la différence entre vivre la plénitude de la vie chrétienne ou alors, eh bien, c'est être quelqu'un qui est changé, mais qui ne se laisse pas changer à l'extérieur par le Seigneur. Ce mot de disciple-là, eh bien, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On a l'impression que le mot disciple a été inventé par les chrétiens. Mais quand le Seigneur a dit à la foule, il a dit aux 11, il a dit à la foule, et il le dit encore à nous aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, c'était pas nouveau pour les gens qui ont entendu ces paroles de la bouche même de Jésus. Ils savaient ce qu'était un disciple. Ils comprenaient ce que cela voulait dire d'être un disciple. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe dans l'éducation juive. Le système éducatif juif, eh bien, est fait en sorte que les enfants sont tout de suite amenés à l'école de la Torah. Non seulement à la maison, ils vont apprendre qui est Dieu. Ils vont apprendre à connaître le Dieu de l'Alliance. Ils vont apprendre par l'observation, l'observance plutôt des, des fêtes juives, ils vont apprendre parce que toutes les semaines, il y a le Shabbat. Toutes les semaines, il y a la fameuse portion des Écritures qui est réservée à tel Shabbat de la semaine qui est lu à voix haute par le père de famille. Toutes les semaines, il va voir la mère de famille qui va allumer les bougies de Shabbat à telle heure, qui va éteindre les bougies de Shabbat à telle heure. Toutes les semaines, il va voir le pain qui va être brisé. Toutes les semaines, il va voir la fameuse coupe de vin sur la table. Toutes les semaines, il va voir ce rituel. Toutes les semaines, il va en entendre parler. Donc, eh bien, il va aller en plus dans cette école. Il va apprendre à lire, à écrire la Torah. Il va mémoriser la portion. Alors, il faut savoir que il y a cette fameuse portion qui est intéressante d'ailleurs. Vous savez, quand un enfant naît tel jour, ça n'est vraiment pas un hasard. Et donc, quand on regarde dans les Écritures quelle était la portion qui devait être lue dans les synagogues le jour de la naissance de tel enfant, eh bien, normalement, ça parle de la vie de l'enfant, ça parle peut-être ou d'un trait de caractère, ou de sa destinée, ou de sa mission. Moi, j'ai regardé la portion d'écriture qui a été lue le jour de ma naissance, et c'est juste impressionnant, mais qui correspond à ma vie en Dieu. J'ai regardé celle de ma sœur, j'ai regardé celle d'amis, etc. Et je peux vous assurer que c'est vraiment intéressant. Mais il faut savoir que cette portion des Écritures qui est lue à chaque Shabbat, tous les Shabbats, il y a une portion des Écritures qui est lue et qui passe de la Genèse jusqu'à Deutéronome, eh bien, cette portion représente à peu près 3-4 chapitres. Donc l'enfant, à un très jeune âge, il va entendre parler de cette fameuse portion des Écritures et il doit la mémoriser. À l'âge de 13 ans, eh bien, ou à l'âge de 12 ans pour une fille, les enfants vont être acceptés dans la communauté et considérés comme un adulte. Il va faire sa bar mitzvah, elle va faire sa bat mitzvah. Cela veut dire que le jour-là, qui est un peu l'équivalence de quoi la communion solennelle peut-être, on peut voir un petit peu que ça a été copié, mais ce jour-là, l'enfant va devoir réciter toute la portion des Écritures qui correspond au jour de sa naissance. Beaucoup d'enfants chrétiens ne connaissent même pas la prière du Notre Père à cet âge-là. On se rappelle qu'à l'âge de 12 ans, Jésus était tellement versé dans les Écritures qu'il était en train d'enseigner les rabbins qui étaient présents dans le temple. Et puis, de 13 à 15 ans, il y a Ben Midrash, c'est-à-dire que ceux qui sont beaucoup plus, attentifs aux Écritures ou qui veulent étudier davantage les Écritures vont, apprendre continuellement. Et là, ils vont apprendre tout ce qui est à voir avec les proverbes, les prophètes et les psaumes. À l'âge de 15 ans, si ils repèrent un enfant qui a, eu un appel dans sa vie, c'est comme cela que l'on dirait, eh bien, il est choisi par un rabbin. Et là va commencer vraiment je n'ai pas trouvé le mot, je dirais disciplina, qui n'existe pas en français, mais qui me va complètement, mentoring en anglais, oui, mais de 15 à 30 ans, eh bien, il va devenir un disciple de ce rabbin, pendant 15 ans à peu près. Et quand les disciples de Jésus ont entendu cette parole, « Allez faire de toutes les nations des disciples », c'est immédiatement ce qui leur est venu à la pensée. C'est ce style de vie qui n'est pas n'importe lequel, puisque à l'époque, les disciples de Jésus comprenaient ce que cela voulait dire suivre un rabbin, suivre un enseignant. Car il y avait une phrase qui était connue, et cette phrase était « Puisses-tu être couvert de la poussière de ton rabbin ?» puisses-tu être couvert de la poussière de ton rabbin. Alors, pour nous aujourd'hui qui connaissons les villes, eh bien, on a des difficultés à se représenter ce que cela veut dire. Mais à l'époque, les routes n'étaient pas bitumées, même si elles étaient pavées, il y avait énormément de poussière, et surtout si on vivait dans le désert. Et celui qui était appelé à devenir un disciple, eh bien, cela voulait dire qu'il allait suivre de tellement près son maître que la poussière des pieds du maître qui se déplaçait allait carrément couvrir sur lui, le couvrir. Vous imaginez que quand on marche même dans le désert, eh bien, il n'y a pas de la poussière sur 4 mètres de distance. Tous les pas vont dégager une poussière. Mais l'idée, c'est que tu es tellement prêt, c'est-à-dire que tu ne le lâches pas. Dans Luc chapitre 6, voici ce qu'il est écrit. On peut le montrer verset 40. Il nous est dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître ou n'est pas plus que son maître. Certainement, ne le précède pas. Il est dit, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dans cette notion de disciple, il y a cette notion d'être tellement proche de ce maître que nous sommes avec lui le jour, la nuit, quand il y a l'abondance, quand il y a le manque, quand on sait où il va, quand on ignore où il va, quand il nous parle, quand il ne nous parle pas, quand on a faim, quand on est rassasié, c'est continuellement, on le suit au point que la poussière que dégage ses pas nous couvre. Donc quand les 11 et même la foule a entendu à l'effet de toutes les nations des disciples, vous imaginez que tout de suite, ils se sont représentés un certain travail, en sachant qu'ils avaient déjà entendu Jésus leur dire, le disciple doit finir par ressembler à son maître. Et vous et moi, vous dites, mais tu sais, pasteur, moi je ne suis pas appelé à entrer dans le ministère. Ça n'a aucune importance. Nous sommes tous appelés à être des disciples de notre maître Jésus-Christ. Certainement que ceux qui sont dans le ministère doivent apprendre à le suivre de très près, doivent apprendre à le copier, doivent apprendre à aller là où il les guide. Mais c'est valable pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur. D'abord, on se fait baptiser et puis ensuite, on apprend. Et la manière d'apprendre, c'est de marcher très, 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 très près du Seigneur Jésus. Là où il nous guide. C'est tellement radical que dans Jean chapitre 6, verset 70, Jésus a dit aux 12, il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi plutôt, c'est moi. Dans Jean 13, verset 18, le Seigneur dit, je connais ceux que j'ai choisis. Jean 15, on va le lire. Jean 15, chapitre, verset 15 à 17. Voyez-vous, il y a trop de chrétiens génériques et pas assez de vrais disciples. Trop de chrétiens génériques. Moi, je crois qu'on a vraiment de belles perspectives qui s'ouvrent à nous. Mais qu'est-ce qui qualifie le succès ou la profondeur de ma vie chrétienne? Est-ce la voiture que je conduis? Est-ce la maison où j'habite? Est-ce le genre de vacances que je peux me payer? Ou est-ce le fait que je ressemble à mon maître? Qu'est-ce que l'on fait passer comme message à notre travail? Qu'est-ce que l'on fait comme passer par message à notre famille? Est-ce que les gens savent ce que j'ai ou est-ce que les gens savent qui je suis, qui je suis dans le sens suivre? Est-ce que les gens connaissent celui que je suis? Est-ce que je peux dire qui je suis moi, le verbe être? Là, je vais en perdre quelques-uns. Qui je suis à avoir avec celui que je suis, verbe suivre? Ou est-ce que ce que tu vois, c'est ce que tu crois que je me suis fait moi? Être des disciples. Dans Jean chapitre 15, il est dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Alors il faut savoir que je ne crois pas dans la doctrine de l'élection du style « Certains ont été présélectionnés par le Seigneur pour être sauvés et d'autres ne le sont pas. » Non, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde. » Mais chacun, nous avons, dans ce choix de l'humanité entière, nous avons tous une destinée. Et il faut toujours se rappeler que nous ne précédons pas le Maître. Mais en revanche, nous sommes tous appelés à être comme lui et à lui ressembler. Matthieu chapitre 4, verset 18-22. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, je vais attendre que le verset soit montré, voilà. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Donc, ils sont en train de travailler. Il leur dit, suivez-moi. Dans quel sens il leur dit, suivez-moi? Suivez-moi à 3 kilomètres. Suivez-moi quand vous avez le temps. Suivez-moi quand vous avez fini votre pêche et que votre femme a vendu tout le poisson, et je vous ferai pêcheur d'hommes. À 22. Hein. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est-à-dire que quand ils ont entendu « Suivez-moi », ils ont compris que c'était « Suivez-moi » jusqu'à être couverts de la poussière de leur maître. Ils n'ont pas essayé de négocier, ils n'ont pas essayé de dire « Tu sais Seigneur, attends que j'ai d'abord vendu mon affaire. » Il est dit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet. » Et de là étant allé plus loin, il vit les deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. C'est bizarre, hein, il semblerait que les familles soient appelées, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et quelques jours plus tard, ils laissèrent leur entreprise. Ils avaient eu l'occasion de la confier à quelqu'un d'autre. Ils avaient eu le temps de faire un repas d'adieu à leur famille, et leur femme avait eu le temps de préparer le déménagement. Et là, ils le suivèrent. C'est juste? La Bible nous dit, ça a été radical. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, j'accepte le Seigneur et un jour je deviendrai disciple. J'accepte le Seigneur et un jour je marcherai avec mon maître et Seigneur. La Bible nous dit, aussitôt. Parfois, on voit des chrétiens qui, 30 ans après, n'ont pas encore changé. On n'arrive pas à voir l'image de Jésus en eux. Oh, bien sûr, à l'intérieur, dans leur cœur, dans leur esprit, la Bible nous dit que dès qu'on accepte le Seigneur, on est immédiatement transformé à l'image de Dieu. On a sa vie en nous, mais ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, c'est-à-dire dans notre âme, dans nos choix, dans notre comportement, dans nos paroles, dans notre façon de penser, etc. Et celui qui dit « J'accepte Jésus dans ma vie et un jour je m'intéresserai à ce qu'il pense » est quelqu'un qui risque d'avoir mal dans la vie. Encore une fois, quand ces hommes, qui étaient juste en train de s'occuper. C'était une vie, c'était un jour comme ils avaient pensé qu'il allait être. Moi, le jour où, en cette fin, je ne me rappelle plus d'ailleurs la date, mais en cette fin de janvier 1981, ce matin-là, quand je me suis réveillée, c'était un jour comme les autres. Oh, on m'avait invité à une réunion où ouais, c'était des chrétiens, des catholiques, des protestants qui parlaient de leur Jésus. Bon, j'avais dit que j'irais, voilà. Mais dans ma pensée, c'était un jour comme les autres. Seulement ce soir-là, quand j'ai entendu l'évangile, le Seigneur s'est approché de moi. La même chose s'est passée pour vous. Le jour où vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, c'était un jour ordinaire. On n'aurait jamais pu imaginer cette rencontre. On n'aurait jamais pu la définir à l'avance. Jamais. Et on a rencontré Jésus-Christ. Dans la pensée de Dieu, le Seigneur n'a jamais pensé que nous deviendrons des disciples 10 ans après. Dans la pensée de Dieu, immédiatement, nous étions appelés à recevoir la poussière des pas de notre Seigneur. Ça n'est pas que pour les serviteurs de Dieu, c'est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Je me demande, comment serait l'Église de Jésus-Christ universelle? Si tous ceux qui l'ont accepté pour le salut avaient accepté de devenir ses disciples. Il y a beaucoup de convertis dans les rues de Nice. Beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur. Combien d'entre eux sont comme leur maître dans la vie de tous les jours? C'est radical. Dans Luc chapitre 9, vous vous rappelez peut-être de cette invitation. Luc chapitre 9, versets 58 à 61. Vous pouvez voir que les médias apprécieront que je leur remette la liste de mes versets avant le culte. Luc chapitre 9. Jésus lui répondit, parce qu'il y en avait qui étaient en train de dire « Oh, on va te suivre partout où tu nous conduis ». Voilà, ça c'est le zèle de la rencontre avec le Seigneur. Il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête ». C'est-à-dire, il était en train de dire « Ne vous attendez pas à ce que je me pose quelque part, je vais continuer à travailler juste pendant qu'il fait jour, et si vous voulez me suivre, ne vous attendez pas à pouvoir prévoir les jours de votre vie. Parce qu'il se peut que je vous guide dans différents lieux, là où le Père m'enverra. » Et ensuite, un autre dit, donc il dit à un autre, « Suis-moi. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire, Jésus ? « Suis-moi », c'est-à-dire « accepte la nouvelle de ma mort et de ma résurrection ». Il était en train de dire « Suis-moi au point que tu sois couvert de la poussière de mes pieds et que tu deviennes comme moi. » Et l'autre, qui était un juif et qui avait compris ce que ça voulait dire, lui répondit « Seigneur, écoute, tu sais, on a des funérailles dans la famille. Donc, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il faut quand même savoir qu'il n'était pas en train de dire « Seigneur, je te demande 3 jours de plus, le temps que la famille arrive. » Non, il n'était pas en train de dire cela. Parce que jusqu'à aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est pratiquement le jour même que le corps est enterré. Donc il n'était pas en train de dire « Seigneur, donne-moi 3 semaines ». Il était en train de dire « Juste donne-moi quelques heures, Seigneur ». Et l'appel est tellement radical, cet appel à devenir un disciple est tellement radical que le Seigneur lui a dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu ». Un autre dit « Mais je te suivrai ». Verset suivant, s'il vous plaît. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord. Ce fameux d'abord est de trop. Permets-moi d'abord de me marier. Permets-moi d'abord d'avoir une carrière et après je te suivrai. Permets-moi d'abord d'avoir des enfants. Permets-moi d'abord d'élever mes enfants. Parce qu'en général, quand on commence à placer un d'abord dans la phrase, eh bien, le d'abord, on le retrouve plus tard, et on le retrouve plus tard, et on le retrouve. Permets-moi d'abord de payer ma maison. Permets-moi d'abord d'arriver jusqu'à ma retraite. Permets-moi d'abord. Et ici, il dit, permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Verset suivant. Il y en a un. Non? Jésus lui répondit, mais je t'en prie, demande à ta femme de faire un dîner d'adieu. Non mais je t'en prie, surtout, assure-toi que tu fais la bise à tout le monde, tes oncles, tes tantes, vas-y, je suis d'accord avec ton plan. Il n'a pas eu le temps de négocier avec le Seigneur. Et c'est très souvent ce que nous faisons. Nous négocions, permets-moi d'abord, comme si celui qui pose la question ou celui qui fait la suggestion, il lui importait la réponse du Seigneur, c'est-à-dire comme s'il avait besoin de la permission du Seigneur pour faire ce qu'il veut. Vraiment, vous savez, quand on est décidé à devenir un disciple de Jésus, quand on est décidé à ce qu'il prenne en main notre destinée, quand on est décidé à devenir comme le Maître, on n'a pas besoin de lui dire, Seigneur, je vais te suggérer quand. La Bible nous dit que ceux qui n'avaient pas besoin de poser une condition, qui n'ont pas cherché à négocier, ils laissèrent leur filet et aussitôt, ils le suivirent. Quelle différence ! D'ailleurs, je me demande, ceux-là, ils n'ont jamais connu la table du Seigneur, parce que la Bible nous dit que le Seigneur en a invité d'autres. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, nous dit « S'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. » Je parle de la vie chrétienne, non ? Je parle du fait de vivre avec la vie de Dieu en soi et d'avoir et je parle du plan que Dieu a pour l'humanité, plan qui ne passe que par son Église. Il est dit, s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Matthieu chapitre 13, verset 45. Matthieu chapitre 13, verset 45. Ce que je veux, c'est, il est bon de temps en temps de faire le point sur notre vie. Quels que soient les domaines, il est bon. Il est bon de regarder les choses en face. Il est bon de faire le point sur les finances. Il est bon de faire le point sur les relations. Il est bon de faire le point sur ce que l'on envisage pour les enfants, etc. Mais dans notre marche avec Dieu, il est bon de faire le point. Et de dire, est-ce que je permets au Seigneur de faire de moi un disciple? Parce qu'il ne peut pas nous forcer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te suivre de si près qu'il cherche à te ressembler. Tu ne peux pas. Certains diraient, lâche-moi, s'il te plaît, lâche-moi. Pas le Seigneur. Le Seigneur dit au contraire, viens, je vais te montrer comment je pense. Je vais te montrer ce que je fais. Et quand tu sais ce que je fais, alors tu comprends ce que le Père fait. Dans Matthieu chapitre 13, voilà, verset 45 et la phrase d'après, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors quand on lit cette parabole, on a l'impression que la perle de Grand Prix, c'est nous. Non, la perle de Grand Prix, c'est Jésus. Et le marchand, c'est nous. C'est nous qui avons besoin du Seigneur. Et ici, il nous est dit que quand nous avons trouvé quelque chose qui a de la valeur, alors on est prêt à mettre de côté d'autres choses pour obtenir cette perle. Bien évidemment que le salut est gratuit. Bien évidemment que le pardon des péchés est gratuit. Mais la Bible nous dit que quand on a trouvé quelque chose qui a de l'importance, eh bien, on ne le laisse pas filer. J'ai entendu cette histoire là racontée par un pasteur de Buenos Aires, et il parlait du réveil qu'il y a ou qu'il y avait à l'époque. Il y a pas, à vrai dire, c'est un réveil qui continue partout en Amérique du Sud. L'évangile est prêché, il y a des sportifs de haut niveau qui se donnent au Seigneur, il y a des villes entières qui se donnent au Seigneur, les médecins sont au Seigneur, les avocats sont au Seigneur, le garagiste est au Seigneur, les instituteurs sont au Seigneur. Et c'est vraiment un réveil, qu'il y a cette conscience de Dieu, et dès que l'évangile est présenté à quelqu'un, eh bien la personne accepte le Seigneur. Évidemment, cela change toute l'atmosphère dans la ville et petit à petit dans le pays. Et ce pasteur disait que l'inflation était galopante, et évidemment que quand il y a une économie comme cela, eh bien on ne place pas son argent dans une banque parce que deux jours après il ne vaut plus rien. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils vont acheter. Ils vont acheter tout ce qu'ils peuvent, ils vont acheter surtout des biens immobiliers. Je me souviens que la première fois que je suis allée en Turquie, j'ai été vraiment étonnée, parce que en plein champ, sur des tracteurs, je voyais des femmes qui étaient couvertes d'or. Elles avaient des dents en or, elles avaient des bracelets en or, elles avaient des bagues en or, et c'était, on ne pouvait pas faire autrement que de voir. Alors vous imaginez que c'était un choc. Donc je me suis dit, bon, je comprends qu'on puisse être coquette, bon là ça devient un peu bling bling, mais c'est peut-être un peu risqué ou quoi. Et on m'a expliqué que non, c'était justement à cause de cela. C'est qu'il y avait, la monnaie était tellement, se dépréciait tellement vite, que les gens achetaient de l'or et le portaient sur eux. Et c'était évidemment surtout les femmes qui portaient l'or. Ça en fait rêver plus d'une, ça, mais... Mais là, dans cette circonstance, à Buenos Aires, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient surtout des biens immobiliers. Et ils avaient entendu parler du fait de suivre Jésus et d'être à sa disposition, de tout mettre à sa disposition et d'être comme ce marchand qui vend tout ce qu'il a pour obtenir une perle, pour que rien n'empêche cette vie avec le Seigneur. Et les gens ont commencé à apporter à l'Église ce qu'ils avaient, c'est-à-dire des biens immobiliers. Ils ont commencé à dire, tiens, voilà mon titre de propriété sur la maison, voilà mon titre de propriété sur mes appartements, voilà mon titre de propriété sur les terrains, etc. Et les pasteurs de la ville ont commencé à s'interroger. Ils ont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc ils ont prié, et pendant 6 mois, ils ont cherché le Seigneur, et au bout de 6 mois, eh bien, la sagesse de Dieu est venue. Et voilà ce qu'ils ont dit aux chrétiens des églises de Buenos Aires. Ils ont dit, on va vous redonner ce que vous avez apporté au Seigneur, parce que le Seigneur ne peut rien faire avec des maisons vides. Il dit, en revanche, tout ce qu'il y a dans ce qui est dans votre maison, vous allez vous assurer que c'est à la disposition du Seigneur. Votre voiture, quelqu'un a besoin d'être amené à l'église. L'hospitalité, offrir un repas à quelqu'un qui n'en a pas. On parle de cette dimension, de ne plus être si attaché à des biens qui nous empêchent de ressembler au maître. Ma question est, es-tu couvert de la poussière du maître? Est-ce que tu acceptes qu'il fasse de toi un disciple au point que tu lui ressembles? Dans la manière de faire, dans la manière de penser, dans la manière de planifier, dans la manière de parler, est-ce que tu marches dans la poussière du maître? Parce que couverts de cette poussière, nous allons pouvoir faire les œuvres de Jésus. Et il y a de belles choses qui nous sont réservées pour 2017. Pas simplement en tant qu'Église, je parle dans la vie personnelle. Le Seigneur ne nous forcera pas. Il ne va pas nous forcer à le suivre. Est-ce qu'il y aurait des priorités qui ont besoin d'être remises à leur place? Y a-t-il du temps, l'usage du temps, que l'usage des heures, du calendrier qui devrait être revu? Quand le Seigneur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », Jésus n'avait pas autre chose en tête que cette image-là. Alors, c'est ce que je voulais vous apporter, c'est ce qui est sur mon cœur. Et ben, je crois que le Saint-Esprit va faire le reste du travail en vous. Mais si vous dites, tu sais, moi j'avais un peu oublié cette notion de disciple, ou peut-être que je ne l'avais pas comprise de la sorte, mais j'aimerais que le Seigneur lui m'amène à vivre dans cette dimension-là de la vie chrétienne. Alors c'est peut-être le moment de dire, Seigneur, je vais reconsacrer ma vie, et je crois que le Saint-Esprit va me guider tous les jours à être, le Saint-Esprit va me guider. Évidemment, après on peut dire oui ou non, ça c'est certain. Mais en tout cas, avec la puissance de cette prière, le Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre et il va nous guider. Il va nous instruire, il va nous montrer comment on peut être le disciple de Jésus. Si tu dis oui, moi je veux être le disciple. Je ne sais pas comment faire, comment il va s'y prendre, mais en tout cas, le vouloir, oui, je veux. Dans ces cas-là, lève-toi. Et ne le fais pas parce que les autres se lèvent, juste fais-le. C'est-à-dire que le Seigneur va vraiment nous aider. Il va se révéler à nous d'une manière qui est vraiment différente. Tu vois, cette présence-là, eh bien, elle va venir sur toi. Tu vas voir que cette présence va augmenter. Ça ne veut pas dire que tu n'iras plus au travail, mais parfois, tu auras cette conscience de « Il est là ». Jésus, nous voulons respirer la poussière de tes pieds de manière concrète. Nous savons que nous sommes unis à toi, mon Dieu, mais dans notre expérience, nous voulons être plus près de toi. Je veux, mon Dieu, être encore un plus grand disciple. Il y a tellement de choses que je ne connais pas de toi. Seigneur, nous sommes devant toi, tu es au milieu de nous. Et nous te demandons, par le ministère du Saint-Esprit, de nous rapprocher de toi. Dites cela au Seigneur. Seigneur, rapproche-moi de toi par le sang de l'agneau. Amen. Et il va le faire. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de condition, c'est juste cette simple prière de la foi. La Bible nous dit dans le livre des Actes que dans cette ville, les gens ont reconnu les disciples pour avoir été avec Jésus. Et la Bible nous dit, ils bouleversèrent la ville. Ils ont apporté, par cette présence qui était tangible sur eux, ils ont apporté un bouleversement là où ils étaient. Ils n'ont pas haussé la voix, ils n'ont pas cherché à remettre les gens en place. Juste avoir été avec le Seigneur fait que le Seigneur a été avec eux là où ils étaient. de manière tangible. Je crois qu'on va voir un bouleversement en 2017. Merci Jésus, gloire à toi. Jésus, tous ceux qui ont peut-être noté une lenteur de la réflexion, où vous avez du mal à terminer vos phrases, où vous avez l'impression d'être ralenti intellectuellement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont remarqué ça? Approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, on est tellement habitué à toute la technologie, on passe tellement de temps pour notre travail, hein, c'est pas mauvais, sur Internet. On nous a appris à être multitask, multitâche, faire plusieurs choses en même temps. Et mes amis, ça se retourne contre nous. Parce qu'en faisant cela, on finit par, par perdre notre concentration. Et quand on perd notre concentration, on commence une phrase, on la voit même pas. Eh bien, dis donc, apparemment, gloire à Dieu, moi je crois qu'il va y avoir des changements énormes. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous attendez un miracle? Alors, ça veut dire que peut-être qu'il faut, il faut s'assurer que diminuer les heures sur ordinateur ou ne faites pas plusieurs choses en même temps, par exemple, n'écoutez pas la radio. Habituez-vous à cela parce qu'il faut se réhabituer. Là, on est en train de reprendre le contrôle de notre âme, de notre faculté de penser. C'est énorme. C'est énorme, mes amis. Énorme. Merci, Seigneur.